بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le vendredi, le premier du mois Rabi al-Awwal de l'année 1448 de l'Hégire, correspondant au 14 août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de cette risala de l'imam Ibn al-Qayyim qu'il a adressée à un de ses frères. Et nous arrivons à la pulpe de cette risala dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a parlé de 6 points. Celui qui les réunit, il arrivera, avec la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette salat plein de khushu', plein de concentration, plein de dévotion et d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la salat qui regroupe les 6 points qu'il a commencé à énumérer. Et on a parlé déjà du premier point, le plus important, qui représente la base des bases, Al-Ikhlas, la sincérité. Et ensuite, il a parlé du deuxième point qui regroupe As-Sidq, la véracité, et An-Nosh, la loyauté et le bon conseil. Et ensuite, dans le troisième point, il a parlé d'un aspect très important, surtout par rapport à l'apparence de cette salat, l'aspect apparent de la salat, dans lequel il est question d'être dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et d'être dans la conformité à ses enseignements et à sa tradition sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce point, on s'était arrêté sur le passage dans lequel il a dit وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَ. بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَ أَنَّا لَا نُؤْمِنُ حَتَّى نُحَكِّمَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. Donc, toujours dans l'obligation et le devoir de se conformer à la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام et de suivre ses enseignements, déjà les chercher et les apprendre, et ensuite mettre tout en œuvre afin de les appliquer. Donc dans ce cadre-là, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par sa noble essence que nous ne serons croyants que lorsque nous aurions pris le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour juge dans tous nos différents. وَنَنْقَادَ لِحُكْمِهُ وَنُسَلِّمَ تَسْلِيمًا. Que nous ne serons soumis à son jugement et y aurons adhéré pleinement. فَلَا يَنْفَعُنَا تَحْكِيمُ غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله. Donc il dit le devoir de le prendre comme unique modèle et exemple, et de le suivre et de le prendre également comme juge, alayhi salatu wassalam, et d'adhérer pleinement à son jugement et de l'accepter intérieurement et extérieurement. Car prendre un autre que lui pour juge et s'y soumettre ne nous sera d'aucune utilité et ne nous sauvera pas du châtiment d'Allah. ولا يقبل منا هذا الجواب اذا سمعنا نداءه سبحانه وتعالى يوم القيامه. Et il poursuit en disant que cette réponse ne nous sera pas acceptée de nous lorsque nous entendrons son appel le jour de la résurrection, quand Allah dit ماذا اجبتم المرسلين, dans le sens approximatif, que répondiez-vous aux messagers, dans sourate al-A'raf, afin dans sourate al-Qasas. Mada ajabtum al-mursalin, que répondez-vous aux messagers? Donc la réponse que nous avons suivie autre que lui ne nous sera d'aucune utilité et ne nous sauvera pas du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui sera utile ce jour-là, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'acceptation de son jugement et le fait d'y adhérer pleinement, intérieurement, extérieurement. فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. Il dit cette question est inévitable. La question précédente et qui est mentionnée également dans l'autre verset de sourate Al-A'raf. Cette question est inévitable à ce sujet et il est nécessaire de donner réponse à cette question. Comme Allah a dit dans le sens approximatif, أَوْعَفْوَنْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « فَلَنَسْأَلَنَّ ». Il y a plusieurs formules d'affirmation dans ce style, afin de confirmer que cette question est inévitable et qu'elle sera posée et que la réponse est exigée à toute personne. Allah dit « فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ». Nous interrogeons très certainement ceux vers qui des messagers ont été envoyés. Et nous interrogerons très certainement les messagers. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي. Donc le Nabi عليه السلام قال أوحي إلي أنكم تفتنون أنكم بي تفتنون وعني تسألون صلى الله عليه وسلم. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes et quand vous interrogera à mon sujet. Et quand vous interrogera à mon sujet. Ça, c'est la fameuse épreuve de la tombe dans laquelle ces trois questions nous seront posées. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Donc, le Nabi alayhi salam confirme ce sens dans ce hadith qui lui a été révélé que nous serons éprouvés dans nos tombes, à part ceux qui ne subiront pas cette épreuve, comme les martyrs. Lakin, l'ensemble de la communauté sera éprouvé dans la tombe et interrogé, notamment au sujet du messager d'Allah, c'est-à-dire L'imam al-Qayyim dit, c'est-à-dire la question de la tombe, l'interrogatoire dans la tombe. فَمَنْ انْتَهَتْ إِلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَرَكَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَسَيَرِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَعْلَمْ. C'est ainsi que celui à qui la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est parvenue et qui l'a délaissée pour la parole d'un homme, le sera et le regrettera le jour de la résurrection. Il aura le regret le jour où les regrets ne seront d'aucune utilité. Et ce point montre clairement l'importance du suivi du messager d'Allah dans notre salat, et que c'est un des moyens qui nous permettent d'avoir à cette salat plein de khushu', plein de dévotion, plein de concentration et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le troisième point qu'il a mentionné. Ensuite, le quatrième point, al-mashhad al-rabi', mashhad al-ihsan. Donc, le quatrième point, c'est la bienfaisance. Mashhad al-ihsan. Al-ihsan, comme vous savez, c'est le troisième degré le plus élevé de la religion. Car les degrés de la religion sont au nombre de trois. Le premier, al-islam. Le deuxième, al-iman. Et le troisième, al-ihsan. Et il va expliquer ce que c'est l'ihsan. Donc, là, ce point-là, il est capital. Ce qui a été mentionné précédemment, jusqu'ici, d'une manière générale, c'est ce qui garantit au serviteur l'acceptation de sa salat, la sincérité, la véracité, et d'être complètement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ces trois points, globalement, c'est ce qui garantit au serviteur la validité de la salat et, je voulais dire, l'acceptation de la salat. Car la validité, comme vous savez, c'est un jugement qui est basé sur l'aspect extérieur de la salat, sur ce que nous voyons avec nos yeux. Nous disons que c'est une salat valide car elle réunit les conditions, les piliers et les obligations. Mais l'acceptation, c'est une autre affaire. Donc, la sincérité, le suivi du messager et la véracité et nasiha dans cette salat, c'est ce qui permet son acceptation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous savez, si cette salat part d'une mauvaise intention, part de l'ostentation ou autre intérêt mondain, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le non-conformité à la sunna également peut causer l'invalidité de l'adoration, selon un détail connu chez les hommes de science. Le quatrième point, c'est, à travers ce quatrième point, l'imam Ibn al-Qayyim vise à mentionner l'importance de se perfectionner dans ces domaines qui ont été cités précédemment. Car l'ihsan, en résumé, ça revient à ça. À se perfectionner dans la sincérité. Et se perfectionner dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que c'est le degré le plus élevé de la foi. C'est d'être muhsin, bienfaisant, dans tout ce que tu fais, dans ton adoration. Et dans l'explication de ce degré, ou de ce point, car ici il ne parle pas de l'ihsan d'une manière générale comme degré de la foi, mais il parle de l'ihsan comme point nécessaire pour arriver à cette salat de l'khushu' et qui devient la chose que le croyant chérisse le plus, aime le plus de cette de l'adoration. Il a dit وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد. Donc l'ihsan c'est quoi? Il dit c'est l'aspect de al-muraqaba. Al-muraqaba, la vigilance, qui signifie le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. D'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu n'arrives pas à adorer Allah, Al-muraqaba, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car tu ne peux pas voir réellement Allah avec les yeux dans ce bas monde. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour tout le monde. Comme le Nabi a dit dans le hadith authentique, il a dit « Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. » Vous n'allez certainement pas voir votre Seigneur jusqu'à mourir, yani après la mort, dans l'autre demeure. Mais dans cette demeure, la vue d'Allah, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, est impossible. Il est impossible de voir Allah avec les yeux. Lakin, on peut le voir une vision scientifique avec l'ilm, en voyant ses attributs sublimes et ses noms magnifiques, en voyant sa création qui indique sa grandeur et sa splendeur, subhanahu wa ta'ala. Et cette chose est possible pour l'être humain. Elle est possible dans les affaires mondaines. Tu t'attestes de l'ingéniosité d'un concepteur, d'un fabricant, en voyant son œuvre. L'être humain arrive facilement à faire ce lien. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. Cet état de l'ihsan et de l'muraqaba consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Cet état découle de la perfection de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs. حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة. Au point que le serviteur حتى كأنه يرى الله. Au point que le serviteur, يعني plus il va évoluer dans cette science et dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en ses noms et ses attributs, plus il va évoluer dans cette science et dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il arrivera à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses cieux, établi sur son trône, ordonnant et interdisant, gérant les affaires de la création. فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. comme s'il le voyait établi sur son trône, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. En donnant des ordres et des interdits, en gérant les affaires de la création. L'ordre descend de lui et remonte vers lui. Et les œuvres des serviteurs, ainsi que leurs âmes, lui sont présentées lors de leur rappel à lui, subhanahu wa ta'ala. فيشهد ذلك كله فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا. Donc le serviteur contemple tout cela avec son cœur. C'est une vue avec le cœur et non pas avec les yeux de la tête. C'est une vue avec le cœur, une vue scientifique. Donc le serviteur arrive à contempler tout cela avec son cœur. Il contemple les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contemple un être subsistant par lui-même, Al-Qayyum, vivant, éternel, audient, clairvoyant, puissant, sage, ordonnateur, interdicteur, subhanahu wa ta'ala. Il donne les ordres et il interdit. Qui aime et qui déteste. Tout ça comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne ressemble en rien dans ses caractéristiques propres à lui, à aucune de ces créatures. Donc la porte de la comparaison d'Allah à la créature, elle est fermée d'une manière définitive. Et l'espoir de connaître le comment de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est réduit à zéro. Il est impossible d'arriver à cela. Tout ce que tu puisses imaginer de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est décrit avec, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est la certitude que tu dois avoir ici. Tout ce que tu puisses imaginer de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est décrit avec, ce n'est pas la réalité. Ce qu'on connaît, c'est le sens de ces attributs et leur signification, mais leur comment, ça c'est quelque chose que personne ne connaît. Lakin on comprend le sens. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage, nous savons ce que ça veut dire la sagesse, l'attribut. Quand on dit qu'Allah voit, nous savons ce que cela veut dire. Allah, il voit réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Mais ce que nous ignorons, c'est le comment. Et ça, c'est valable pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Le comment est ignoré. Et le sens est connu. Et la foi en cela est une obligation. Il ne rentre dans le comment qu'un innovateur, qu'un égaré. Et c'est une porte de la mécréance. Qui aime et qui déteste. Qui est satisfait et qui agrée. Et qui peut être en colère également. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Il fait ce qu'il veut. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. Il décide ce qu'il désire. وَهُوَ فَوْقَ عَرْشِهِ. Tout en étant au-dessus de son trône. لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. Rien des actes des serviteurs, de leurs paroles ou de leurs pensées ou de leurs pensées intimes ne lui échappe. لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. Même ce qu'ils cachent en eux-mêmes, tout ça est connu pour Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'il connaît leur apparence. Tout est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît l'intérieur comme il connaît ce qui est apparent de la même manière. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il connaît même la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Subhanahu wa ta'ala. Pour résumer ça, nous disons Allah sait toute chose avant qu'elle ne se passe. Et il a toujours tout su. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un début. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Lakin il a ordonné que ce soit mis par écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Ilmuhu azali, subhanahu wa ta'ala. Et il sait même ce qui ne s'est pas passé. Si jamais il serait passé, comment il serait déroulé? Allah sait tout. Ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux pas imaginer. Subhanahu wa ta'ala. Wa mashhadu al-ihsan. أصل أعمال القلوب كلها الله أكبر. Il dit que cette station de la bienfaisance et de l'excellence est le fondement de toutes les œuvres du cœur. الله أكبر. هذا الإحسان هو أصل أعمال القلوب كلها. Yani rentre dedans. C'est pour ça nous disons que c'est le degré le plus élevé de la religion. Là, on connaît tous que les adorations du cœur ont un mérite beaucoup, beaucoup plus grand que les adorations de l'apparence. Et les deux sont demandés. Et tu ne dois pas négliger l'une sous prétexte que tu es faible dans l'autre. Tu redoubles les efforts dans les deux aspects, intérieur et apparent, et tu demandes à Allah l'aide et le soutien. Lakin, utile à savoir que l'ihsan, ce fondement, c'est la base de toutes les adorations du cœur. فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَيَاءَ. L'ihsan permet et implique yujibu al-haya, al-ihsan implique la pudeur. Qu'est-ce qui fait que tu es touché par la pudeur al-haya quand tu commets un péché? Tu as la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ihsan. Al-haya, certes c'est une adoration du cœur. Lakin, valable pour toutes les adorations du cœur, quand elles sont bien présentes dans le cœur, bien établies dans le cœur, elles se manifestent forcément sur l'apparence. Elles se manifestent forcément sur l'apparence. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu. Si tu as une mauvaise odeur qui sort d'un récipient, d'un bocal, c'est qu'il contient quelque chose de mauvais. Et si tu as une bonne odeur qui sort, c'est qu'il contient quelque chose de bon. Donc forcément, ce qu'il y a dans le cœur, il se manifeste sur l'apparence. Tu le vois sur la langue et sur les autres membres également. فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَيَاءَ والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له. دونك هاد الحياة implique la pudeur et la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'observer la grandeur et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-khashya, la crainte. La crainte. Wal-mahabba, l'amour. C'est ce ihsan, c'est ce degré qui te permet d'arriver à des niveaux élevés dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, ainsi que tout ce qu'il a mentionné comme adoration, ce sont des adorations du cœur. Et tout ce qu'il va mentionner ici. Wal-mahabbata, wal-inaba, également, il engendre le repentir, l'inaba. L'inaba, c'est un repentir avec l'accomplissement d'adoration aimée par Allah. Ce n'est pas un simple repentir. L'inaba, ce n'est pas un synonyme de tawba. Il y a une nuance entre l'inaba et tawba. Les deux comportent le repentir. Lakin al-munib, c'est celui qui se repent en faisant ce que Allah aime en plus. Et le repentant, c'est celui qui délaisse le péché. والتوكل. Et التوكل, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre totalement à lui, de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait avec une certitude tellement forte que ça dépasse sa certitude sur les choses perceptibles avec le toucher ou la vue. Quand ce tawakkul arrive à ces degrés, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas douter un instant que en faisant ce que Allah lui a ordonné de faire, il sera négligé, abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Donc celui qui a tawakkul, ce qui compte pour lui, c'est seulement faire ce que Allah lui dit. Il ne se soucie guère des conséquences, car il a une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours, en tout cas, je trouve que c'est une bonne méthodologie qui rapproche les choses, c'est de donner des exemples avec les créatures et de voir quand tu as confiance en une créature, en sa bonté, en sa générosité, en sa sincérité. Un ami très sincère, un ami de confiance, un ami tellement bon, tellement généreux. Si tu es avec lui, tu crois que si tu tombes dans une galère, il va t'abandonner, il va te délaisser? Bien évidemment que non, jamais de la vie. Ça, c'est pour une créature. Alors, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi al-mathalul a'la. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel tu t'es soumis? Et celui que tu adores exclusivement. Et tu as fait tout ce que tu as fait pour lui. Et tu penses, ou là tu laisses Shaitan te donner le waswas, que tu seras abandonné ou négligé, ou il va te laisser dans des difficultés, dans des galères. S'il te laisse, c'est pour ton bien. Tout ce que Allah fait pour le croyant, c'est pour le propre bien du croyant. C'est pour ça, c'est pas toujours la personne qui te donne tout ce que tu veux, qui veut ton bien. Elle peut vouloir ton bien et avoir beaucoup d'amour pour toi, mais elle est ignorante. C'est pour ça, notre amour de nos enfants, c'est une des plus grandes causes du gâchis qu'il y a chez les enfants. C'est l'amour des parents, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim. Nana, l'amour n'est pas synonyme du laisser aller. Hein, de l'amour, il doit être équilibré avec une fermeté. Amour plus fermeté, plus des règles fixes et stables et claires qui doivent être respectées par l'enfant. L'enfant a besoin des deux. A besoin de l'amour de ses parents, mais il a besoin également qu'on lui définisse un cadre et qui doit être respecté. Et la fermeté n'est pas synonyme non plus de la dureté. On peut très bien imposer ces choses-là avec le sourire, avec des paroles bien choisies. Lakin, ce qui compte, c'est que ce soit respecté. L'enfant, il faut qu'il comprenne ça, qu'il y a des limites à ne pas transgresser. Et ça, c'est pour son propre bien. Et vous voyez bien, mes frères, que les gens qui ont grandi dans une certaine difficulté, une certaine dureté de la vie, qui n'était pas forcément choisie par les parents, là, c'était la réalité. C'est les hommes qui sont en général les plus forts, qui arrivent plus facilement à affronter les situations difficiles et à patienter, contrairement à ceux qui ont grandi dans la facilité et dans l'aisance. C'est pour ça qu'ils disent les taux de réussite chez les orphelins sont beaucoup plus élevés que ceux chez les enfants qui ont grandi avec leurs parents. Après, ça c'est l'aspect positif qu'on puisse trouver chez un orphelin. Lakin, il peut y avoir un aspect négatif. Manque d'affection, ça fait de lui quelqu'un de très dur. C'est pour ça qu'on a besoin de l'équilibre. Lakin, had l'orphelin, pourquoi on peut le citer comme exemple ? Car c'est quelqu'un qui va devoir se débrouiller par lui-même. Souvent, c'est comme ça. Il n'a personne derrière. C'est quelqu'un qui a été habitué à faire face à des situations difficiles. Et ça forge en lui une personnalité forte. Et ça fait de lui, en général, un homme fort. Lakin, le manque d'affection, ça peut faire de lui un homme dur. Et la fermeté, c'est pas un synonyme de la dureté. Taïb. Il a dit at-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et l'humilité envers lui subhanahu wa ta'ala. Wa yaqta'u al-waswas wa hadith an-nafs. Également l'ihsan, le fait d'atteindre ce degré, ça permet de couper court à toutes les suggestions sataniques. Ça ferme la porte des suggestions sataniques. Et hadith nafs, yani les mauvaises pensées qu'on puisse avoir. Et ça permet également وَيَجْمَعُ الْقَلْبَ وَالْهَمَّ عَلَى اللَّهِ. Et ça permet d'unir le cœur et l'esprit autour d'un seul objectif qui est Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas être dispersé, éparpillé. D'être concentré sur une seule chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui permet tout ça? Il dit c'est l'ihsan, le degré de l'ihsan, l'excellence et la bienfaisance. فَحَبْضُ الْعَبْدِ مِنَ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنْ مَقَامِ الْإِحْسَانِ. Donc, la part de proximité du serviteur auprès d'Allah dépend donc de sa part dans la station de l'excellence, de l'ihsan. وبحسب تفاوت الصلاة حتى يكون وبحسبه عفوا وبحسبه تتفاوت الصلاة. Et c'est selon sa station que la salat, que les salats des gens sont différents en valeur et en qualité et en mérite. حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض. Au point qu'il puisse y avoir entre la salat de deux hommes une différence aussi grande qu'entre le ciel et la terre, alors qu'ils sont dans le même rang, l'un à côté de l'autre, derrière le même imam, dans la même mosquée. Lakin, l'écart entre les deux, dans le mérite et dans la récompense, c'est comme l'écart entre le ciel et la terre. Par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'il y a dans les cœurs. Par rapport à ce qu'il y a dans les cœurs. Par rapport à ce degré de l'ihsan. وَقِيَامُهُمَا وَرُكُعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ. Pourtant, leur station debout, leur inclinaison, recours, leur prosternation sont identiques. Ils mettent le même temps. Peut-être qu'ils répètent les mêmes choses exactement. Ils disent tous les deux « Subhana Rabbil Azim » trois fois. Et dans ce sujoud, ils disent « Subhana Rabbil A'la » trois fois. Peut-être qu'ils répètent même les mêmes choses dans la salat. Lakin, il y a quand même ce grand écart par rapport à ce qu'il y a dans le cœur. Yada, fa inna al-qalba huwa mahattu nadhari Allah 'azza wa jalla. C'est ce que Allah, le cœur, c'est ce que Allah regarde de nous. C'est en fonction de ce qu'il y a dans le cœur que nous serons récompensés. Et ça ne veut pas dire de négliger l'apparence. Elle est demandée. Celui qui regarde le cœur a ordonné la réforme de l'apparence. Il y en a, pourquoi je le répète souvent, il y en a beaucoup de gens tombent dans ce piège de shaitan. Ou bien parce qu'il voit qu'il a une faiblesse dans les adorations du cœur, il se dit donc, ça ne sert à rien que je garde cette apparence qui montre comme si j'étais quelqu'un de bien. Alors je connais ma situation. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est bien de l'avoir réalisé. Déjà, c'est la moitié du chemin. De réaliser nos faiblesses et nos négligences. Donc, ce qui est demandé, c'est de les réformer et de les travailler. Si on constate qu'on a des lacunes au niveau des adorations du cœur, il faut les travailler. Et non pas négliger les acquis que nous avons au niveau de l'apparence. Et ce qui compte, c'est d'être sincère. Ce qui peut poser problème, c'est de soigner en permanence notre apparence tout en négligeant notre intérieur. Autrement dit, soigner ce que les gens voient de nous pour l'image et l'estime et le statut auprès des gens et négliger ce que Allah subhanahu wa ta'ala voit. Seul. Allez, on va faire. Il reste le cinquième et le sixième. Vous avez une salat bientôt ? Préférez qu'on arrête ?
Vous m'avez entendu ?
Non. Je regarde juste le nombre de pages qui restent. Là, on aimerait terminer la semaine prochaine. On va parler rapidement de la station de Al-Minna. Al-Minna. Il a dit, rahimahullah ta'ala, Al-Mashhad al-Khamis, le cinquième point, toujours dans ces points qui permettent au serviteur, celui qui les réunit, il arrivera bi'idhnillah à la salat, qui a été décrite par le prophète, alayhi sallam, la salat dans laquelle il trouve le repos, dans laquelle il trouve la quiétude, la salat aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième point, il a dit « Mashhad al-Minna ». c'est al-mashahid, yani huma c'est des points en réalité que tu dois avoir dans ta salat. Lakin il les décrit par des mashahid, des contemplations, comme si tu dois observer et contempler cette station et l'atteindre pour arriver à cela. Il a appelé Mashhad al-Minna. Al-Minna, c'est la grâce divine. Al-Minna, c'est la faveur divine. C'est le pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Donc, se rappeler ce point en permanence et en particulier pendant ta salat, c'est parmi les points qui permettent d'accéder à ce degré. Il dit à son sujet, وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. Donc, il doit reconnaître que toute la grâce appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, du fait que c'est lui qui l'a établi dans ce rang. Et l'a guidé pour que son cœur et son corps, tous les deux, soient à son service et soient présents dans cette salat. Il n'est pas venu seulement avec le corps, mais il est venu avec le corps et le cœur également. Tous les deux unis pour être dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'accomplissement de cette adoration, l'adoration pratique la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière absolue. Il n'y a pas une adoration qui est autant aimée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la pratique comme la salat. فَإِنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. La meilleure de vos œuvres, c'est la salat. Et non la foi et la croyance, d'une manière générale, c'est tawhid, la plus grande adoration en islam. Lakin, dans la pratique, l'ibadat, l'amaliya, c'est as-salat, le deuxième pilier de l'islam. La seule prescription de l'islam qui a été rendu obligatoire dans le ciel, directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son noble prophète, alayhi salam, sans l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam. Celui qui la délaisse, il n'a plus aucune part dans l'islam, ni dans la foi. Le lien entre toi et ton créateur. As-silatu bayna al-abdi wa rabbi. Man dayya'aha dayya'a dinah. Celui qui l'abandonne, il aura abandonné sa religion. Et celui qui la préserve, il préserve ainsi sa religion et sa foi. Personne ne doit délaisser la salat, quels que soient ses péchés. Salat, c'est le meilleur moyen, après tawhid, de la réforme et de la droiture. Et non pas son abandon, comme le fait croire Shaitan à certains de nos frères. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله والله لولا الله ما اهتدينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Donc il dit, sans Allah subhanahu wa ta'ala, rien de tout cela n'aurait été possible. Comme le disaient les compagnons, en répétant ce vers, en présence du prophète, alayhi salam, dans lequel il disait, par Allah, sans Allah, nous ne serions point guidés. Nous n'aurions fait l'aumône, ni accompli la salat. Et celui qui le disait, c'est, comme dans l'authentique de l'imam Bukhari, c'est le grand compagnon Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Il dit, Wallahi, il jure par Allah, Lawlallahu, si ce n'est Allah, mahtadayna, on ne serait jamais guidé. ولا تصدقنا, on n'aurait pas fait d'aumône, ولا صلينا. Donc tout ce que nous faisons comme bien, c'est grâce à Allah et par Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Dans le sens approximatif, Allah dit, il te rappelle leur entrée en islam comme une faveur. Donc il le rappelle comme si c'était un mérite qu'ils ont d'être entrés en islam. Allah dit à son prophète, dis-leur, ne me rappelez pas votre entrée en islam comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé de sa grâce en vous guidant vers la foi. Si vous êtes véridique, si ce que vous dites c'est vrai et que vous êtes des vrais muslimines, des vrais croyants, alors la grâce appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a guidé. Et vous n'avez pas à vous vanter de votre entrée en islam. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Donc c'est Allah سبحانه وتعالى qui a fait que le muslim soit un muslim et que le mu'min et que celui qui accomplit la salat l'accomplisse. Comme on le voit dans l'invocation de Khalil ur-Rahman, Ibrahim alayhi salam, celui qui atteint le degré le plus élevé dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, il dit dans le sens approximatif du verset, notre Seigneur, fais de nous deux, yani en parlant de lui et son fils, Ismaïl alayhi salam, fais de nous deux des muslimines soumis à toi et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et dans l'autre verset, il dit « Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. » Donc regardez bien ce qu'il dit Ibrahim alayhi salam. Il dit « Notre Seigneur, fais de nous des muslimines. » Fais de nous des muslimines soumis à toi. C'est Allah qui fait de toi un muslim soumis à lui. Il t'a montré la guidée de la soumission, il te l'a indiqué, il a envoyé les messagers, il a révélé les livres pour t'indiquer cette voie. Il t'a donné la capacité de la suivre. Et si tu la suis, c'est par sa grâce et son soutien et sa guidée et son assistance, subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne la suis pas, ne t'en veux qu'à ta personne. فَالْمِنَّةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ فِي أَنْ جَعَلَ عَبْدَهُ قَائِمًا بِطَاعَتِهِ. La grâce revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul pour avoir rendu son serviteur constant dans son obéissance. وَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِهِ عَلَيْهِ. Et cela compte parmi ses plus grands bienfaits envers ce serviteur. C'est les plus grands bienfaits d'Allah envers le serviteur. C'est qu'il lui a permis d'être constant dans l'obéissance à Allah. Il l'a guidé vers l'obéissance en lui indiquant la voie de l'obéissance. Il lui a permis de la suivre et de l'accomplir, cette obéissance. Et il lui a donné la constance sur cette voie. Il a accepté tout ça de lui et il l'a récompensé. Et nous n'avons rien dans tout ça du début jusqu'à la fin. Si on est guidé, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier sur son bienfait. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Allah dit dans le sens approximatif, et tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Et le plus grand bienfait d'Allah, c'est le bienfait de la guider. C'est pour ça, c'est ce qui nous a été rendu obligatoire de demander à Allah dans chaque raka'a. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah dit également walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Ulaika humur rashidun. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. وكلما كان العبد أعظم توحيدا وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. Cette contemplation, il dit, de cette station de Al-Minna, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce divine, cette contemplation est l'une des plus grandioses et des plus profitables pour le serviteur. Et plus le muwahhid et plus le serviteur, plus le degré de tawhid du serviteur est élevé, est pur et grand, plus sa part dans cette contemplation sera complète. Donc plus son degré dans tawhid augmente, plus la contemplation de cette station de l'Minna sera élevée. Et cette contemplation, il a dit, c'est parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur. C'est de ne pas voir sa personne dans aucun bien et de voir le bienfait divin, la grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits de cette station, on va les laisser pour notre prochaine rencontre avec le dernier point qu'il a mentionné qui concerne At-Taqsir. Après avoir contemplé cette grâce divine, de contempler notre négligence, quelle que soit la qualité de notre adoration. Car aucun serviteur n'arrivera à offrir, à présenter devant Allah une adoration qui convient à sa grandeur et sa majesté. Aucun serviteur. C'est pour ça qu'il voit toujours, à la fin de cette adoration, il doit s'arrêter sur cette station qui est At-Taqsir, de réaliser sa négligence et son manquement. C'est pour ça qu'il lui a légiféré. Dès qu'il termine sa salat, il dit « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. « Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ».